Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sur Instagram, 52,2% sont des femmes. On parle souvent de l'impact négatif que peut avoir Instagram sur la santé mentale, le rapport à notre corps, l'estime de soi chez les jeunes. Il faut savoir qu'une majorité de l'audience d'Instagram touche les moins de 34 ans. Pourtant, Instagram, ce n'est pas que pour les jeunes de moins de 34 ans, puisque 17% de l'audience touche les plus de 45 ans. Notre sujet du jour s'intéresse à ces femmes de 45 ans et plus qui utilisent ce réseau social et l'impact que cela peut avoir sur leur sexualité. Que viennent-elles chercher sur ces comptes? Quels sont leurs apprentissages? Mon invitée, Virginie Kérard-Claronc, sexologue et thérapeute de couple, reçoit régulièrement des patientes concernées par ce sujet. D'ailleurs, elle en a fait son mémoire universitaire en s'interrogeant sur l'impact d'Instagram sur la fonction sexuelle des femmes ménopausées. Virginie, bienvenue sur Camille parle sexe.
Bonjour Camille, merci de m'inviter et de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui effectivement met en évidence que les femmes de plus de 45 ans viennent chercher de l'information sur Instagram plus particulièrement. Donc merci beaucoup.
Bah, je pense que ça va être intéressant parce que je te sens passionnée par ce sujet. Donc, comme je le disais, tu as écrit ton mémoire universitaire qui avait pour objectif d'identifier si l'éducation sexuelle et les informations sur la ménopause proposées sur Instagram pouvaient provoquer un effet positif sur la fonction sexuelle des femmes ménopausées, celles qui suivent ces comptes. Donc, tu as recueilli de nombreux témoignages de ces femmes-là. Mais tout d'abord, pourquoi tu t'es intéressée aux femmes de plus de 45 ans ?
Alors, merci de me poser cette question. Je me suis intéressée aux femmes de plus de 45 ans parce que j'ai moi-même plus de 45 ans et que j'utilise Instagram et j'y anime un compte qui parle de sexologie. Alors effectivement, je me suis rendu compte que les femmes de plus de 45 ans étaient présentes, m'interpellaient, me questionnaient, cherchaient des réponses. Et je me suis demandé si ces femmes, elles étaient sur mon compte parce que moi-même, j'avais plus de 45 ans ou si en général, elles étaient aussi utilisatrices d'Instagram. Et j'ai souhaité m'y intéresser plus précisément pendant ma recherche universitaire. J'ai découvert que depuis la crise du Covid, eh bien, il y avait eu une explosion de la fréquentation des plus de 45 ans sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que pendant cette crise sanitaire, on avait le temps d'investir les réseaux sociaux et que énormément de comptes. Alors en France, je vais préciser que je parle de la France. En France, les comptes qui traitent de la santé, du bien-être, de la sexualité et de la ménopause ont littéralement explosé pendant le Covid. Et donc, les usagers ont eu le temps de s'y intéresser et les plus de 45 ans ont, je dirais, rattrapé un petit peu leur retard dans l'usage des réseaux sociaux et d'Instagram en particulier, puisque c'est Instagram qui propose le plus de comptes s'agissant de bien-être, de santé, de sexualité et de ménopause. Donc, c'est tout naturellement que les femmes de plus de 45 ans à la recherche d'informations ou d'éducation ou de partage d'expériences sont allées commenter, fréquenter, interroger ces comptes. Du reste, des études confirment ces chiffres. Donc, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis demandé si finalement le fait qu'elles puissent bénéficier d'informations précises et répondant à leurs attentes et leurs besoins avait un effet positif ou négatif ou pas d'effet sur leur sexualité notamment. C'était vraiment une étude très passionnante. Qui a montré, est-ce que je dois dire maintenant
que... J'allais dire justement là, parce que les personnes qui écoutent et même moi, on va être là. Bon, bah dis-nous, alors c'est quoi du coup? Tu peux nous spoiler là?
Bah oui, en fait, c'est chouette parce que cette étude-là, elle a démontré qu'il y avait un effet positif sur les ressentis du vécu de la ménopause, notamment parce que c'était le sujet, mais pas seulement, il y avait aussi un ressenti de changement de comportement positif dans la sexualité. Et ça, c'était vraiment une très jolie découverte. Et puis aussi, ce qui a été démontré significativement, c'est que l'usage d'Instagram ne dégrade pas la fonction sexuelle, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Alors,
quand on parle fonction sexuelle, on parle désir, plaisir, dis-nous tout.
Exactement. On parle vraiment du désir sexuel, de la libido, on parle du plaisir, on parle des sensations, on parle de l'excitation, on parle de ce qu'on ressent dans son corps et dans ce qu'on peut mettre en place comme comportement, comme action, vraiment dans la sexualité. Donc, c'est tout à fait concret et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les études s'intéressaient aux jeunes populations, aux jeunes générations et avaient tendance à montrer un effet parfois négatif sur la sexualité des jeunes. Il semble que ce ne soit pas tout à fait la même chose pour les personnes plus âgées parce qu'elles ne font pas le même usage du réseau social, tout simplement. Donc, c'est passionnant. Et effectivement, comme les femmes sont très présentes sur Instagram, y compris à plus de 45 ans, bah, ça en fait un outil très intéressant pour apprendre.
Et alors, quels usages elles en font d'Instagram? Que viennent-elles vraiment chercher sur Instagram vis-à-vis de la sexualité et ou de la ménopause?
Alors, ce qu'elles viennent chercher, clairement, ce sont des réponses à leurs questions restées en suspens, je dirais, malheureusement, dans les consultations médicales et paramédicales en ce qui concerne la ménopause et les problèmes de sexualité au moment de la ménopause. La sexualité, ce n'est pas un sujet qui peut être abordé en consultation aussi facilement que cela devrait être. Les soignants ont du mal parfois à aborder cet aspect du bien-être et du bien-être en santé notamment. Hein. Et les soignants n'abordent pas la question de la sexualité. Malheureusement,
Ce téléphone ne sonne jamais. Et il a décidé de sonner en plein enregistrement. Alors attends, on va juste attendre que...
Ouais, je t'en prie, c'est rigolo, j'ai la même sonnette chez moi. J'ai cru que c'était le mien, je me suis demandé si c'était pas le mien. Ah oui, c'est ça, j'étais en train de dire que, voilà, pardon. Alors ça y est, je reprends. En fait, les femmes qui sont les femmes de plus de 45 ans, qui sont à la recherche d'informations, d'éducation sur la sexualité ou la ménopause, elles vont chercher des réponses, par exemple autour de dans leur entourage, auprès d'amis, dans leur lecture, ou bien auprès de médecins ou de personnel soignant, et naturellement sur Internet, parce qu'elles ne vont pas trouver toutes les réponses auprès de leur entourage ou des professionnels de santé.
Ce qu'on peut voir aussi chez les jeunes aussi, hein, bien qui vont sur Instagram pour avoir des réponses à des questions. Ouais.
Mais oui, bien sûr, en fait, elles font exactement la même chose que les jeunes, en fait. Hein. Et donc, elles vont y chercher donc des réponses pour, en ce qui concerne la ménopause, mieux gérer, appréhender leurs symptômes, parce qu'en fait, elles manquent de connaissances. Elles manquent de connaissances, probablement comme les jeunes générations, des connaissances sur leur anatomie, sur leur fonctionnement physiologique et puis surtout sur les symptômes de la ménopause et les conséquences sur la sexualité. Et notamment hein, la perte de désir à ce moment-là et plus précisément aussi des problèmes de dyspareunie, c'est-à-dire de douleur et de manque de lubrification. Ce sont des sujets qui reviennent souvent, des problèmes d'image corporelle modifiée avec la transformation liée à ce bouleversement hormonal. Donc les médecins, les professionnels de santé ne répondent pas toujours à la demande des patientes. Donc, le partage d'expériences sur des solutions pour retrouver du désir, pour investir la sexualité, continuer de l'investir ou la réinvestir, eh bien, Instagram propose ça. C'est-à-dire que c'est très riche de pouvoir expliquer qu'on avait exactement les mêmes problèmes et qu'on a trouvé des solutions et qu'on va les partager. Ça met vraiment en confiance. Hein.
Oui, et puis ça aussi, du coup, le fait qu'il y ait des comptes Instagram dédiés à la ménopause, bah, ça a rendu le sujet moins tabou aussi, moins effrayant, moins tabou. On n'en parlait pas avant.
Complètement. En fait, ces femmes de plus de 45 ans, si elles viennent chercher sur Instagram des réponses, c'est parce que elles sont invisibilisées dans la société. Une femme de 45 ans, à partir du moment où elle n'est plus en âge de procréer, elle n'est plus valorisée, elle n'est plus présentée, ou alors elle est présentée comme une femme qui va avoir des problèmes d'incontinence, elle disparaît un petit peu des écrans de cinéma aussi. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu comme si lorsqu'on n'est plus en capacité de procréer, on n'avait plus le droit non plus d'avoir une sexualité exclusivement de plaisir. Donc, elle manque de modèles d'identification sexy, où les femmes assument leur sexualité après 45 ans. Et en fait, ça existe sur Instagram. Donc, elles y vont, évidemment, et elles vont pouvoir s'identifier. Il y a plein de comptes. Je pense à Caroline Ida Ours, notamment, qu'on a vu beaucoup l'année dernière, en février, là, sur la campagne d'Argeling. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ces femmes, elles trouvent des modèles positifs, valorisés sur aussi autre chose que leur physique, c'est-à-dire sur leur carrière, sur leur talent. Au même titre que les hommes hein, qui, eux, sont traditionnellement valorisés dans la société comme des personnes qui mûrissent, hein, qui se bonifient. Et puis, c'est ça, et ça commence très tôt. Hein, si on observe les comptes pour enfants, les femmes de plus de 45 ans dans les comptes pour enfants, elles sont souvent très moches, très méchantes. Elles n'ont jamais de partenaire. Elles sont veuves ou célibataires. Hein, ce sont des sorcières.
Avec des chats,
ouais, effectivement. Et puis surtout, contrairement aux hommes, hein, dans les contes, les hommes, ils détiennent le savoir, hein, ils sont druides comme Panoramix ou comme Dumbledore, en fait, ce sont des sages. Donc ça commence très tôt, la difficulté de se sentir séduisante, sexy, désirée, désirante à plus de 45 ans, parce qu'en fait, on ne propose pas cette possibilité, on ne l'envisage pas. Sur Instagram, on l'envisage.
Mais oui, les comptes, j'avais jamais fait le parallèle avec les comptes, mais tu as tout à fait raison. Et en fait, on manque de modèles, on manque de représentations, ou alors, quand il y en a, ça donne pas envie. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de femmes ont peur de vieillir, ne veulent pas vieillir, parce que c'est la dégringolade. C'est ce qu'on nous inculque, en fait.
Eh bien, c'est vrai que le vieillissement n'est pas valorisé. Hein. Il y a des sociétés, d'ailleurs, c'est très intéressant, au Japon, par exemple, vieillir, c'est très valorisé. C'est-à-dire que pour une femme, on peut... En fait, elle continue d'avoir une forme de fertilité, même quand elles sont plus âgées et même ménopausées, parce qu'elles vont transcender ça, et ça va être très valorisé dans le rôle de l'éducation des petits-enfants, par exemple. Donc, c'est quelque chose... En Afrique aussi, hein, les personnes âgées, elles sont très valorisées. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces sociétés-là, il y avait beaucoup moins de symptômes de la ménopause parce que c'était beaucoup mieux vécu par les femmes. Et donc, dans nos sociétés, en tout cas en France, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est toujours associé à des problèmes. Et finalement, c'est ce que les femmes vont vivre. Donc, quand on trouve un espace positif où on montre qu'en fait, la ménopause, ça peut être un super moment de mi-temps de vie, où on retrouve du temps pour soi parce que nos enfants sont enfin partis, même si on les adore, et qu'on peut réinvestir du temps pour soi et pour son couple si on en a un, et sa sexualité, eh ben, il suffit parfois de se rendre compte que c'est possible pour l'une, qu'elle en parle sur Instagram, et on s'autorise tout simplement à le vivre.
Wow. Est-ce que tu sous-entends du coup que Instagram devrait être... que l'assurance maladie devrait valoriser justement Instagram, puisque du coup, comme tu disais, si je suis la logique, si sur Instagram on peut trouver ces modèles-là et des modèles très positifs, et que du coup on se rend compte que plus on valorise le vieillissement, moins il y a de... syndrome du coup de ménopause, de syndromes qui peuvent être désagréables, mieux on se sent, et du coup mieux on se sent, mieux c'est pour l'assurance maladie.
Alors je te rejoins complètement, je trouve que en fait du bon usage d'Instagram dépend un peu aussi notre santé à nous, les femmes en général, où on va trouver des modèles de corps inclusifs, voilà, où on peut s'identifier effectivement, et c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé sexuelle. En fait c'est bon parce que on peut enfin s'aider et évoluer dans l'acceptation de ce qui est la vie, c'est-à-dire d'aller vers un vieillissement, mais épanoui, épanouissant, joyeux, très beau aussi, c'est très beau de vieillir, et ça, c'est montré voilà, sur Instagram, donc évidemment, il y a aussi des choses moins bien, moins... plus négative, il ne faut pas idéaliser Instagram non plus, il n'y a pas forcément du contenu de qualité, mais c'est pour ça que j'encourage en fait toutes les personnes compétentes qui sont formées à venir utiliser ce média sans en avoir peur, parce que c'est une réalité en fait. Je pense aux personnes, aux professionnels de santé en général qui ont beaucoup de réticences, alors de moins en moins, hein, mais qui en ont quand même beaucoup de réticence à communiquer. Ils ont peur de perdre un petit peu ils ont peur que leur image soit un peu ternie, qu'on les prenne moins au sérieux, qu'on les respecte moins. Alors que je trouve que c'est un endroit très intéressant pour faire de l'éducation sexuelle de qualité, sans en devenir...
Établir de la confiance.
Exactement, de la confiance. Et puis, même, j'irais jusqu'à... dire que c'est même un endroit où on peut poser les prémices d'un lien thérapeutique avec nos futurs patients et patientes. C'est-à-dire que pouvoir contacter un professionnel de santé ou pas de santé, mais en tout cas compétent, un spécialiste, ça permet d'avoir un lien immédiat, d'avoir une réponse et surtout de dédramatiser la consultation, la rencontre avec quelqu'un qui s'occupe de sexualité. Le fait de pouvoir utiliser la messagerie, de poser une question, de même pouvoir répondre vocalement. Moi, ça m'arrive souvent, hein, j'ai pas mal de questions sur Instagram. Souvent, je réponds en laissant un petit message vocal. Ça permet de vraiment de rentrer en lien avec la personne, d'avoir une réponse plus chaleureuse, plus humaine, plus simple. Et souvent, cette personne qui n'arrivait pas à franchir le pas d'une consultation et qui en ressentait le besoin, eh bien, peut faire cette demande. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, les professionnels ou les professionnels de la sexualité, quand ils diffusent du contenu de bonne qualité, c'est vraiment un bon moyen de lutter contre les informations de mauvaise qualité, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais je pense que c'est important.
Les informations erronées.
Voilà.
Oui, c'était, je pense, toi comme moi, l'objectif de créer un compte sexo, c'était... On sait que les informations sur la sexualité circulent, peu importe. Il y en a du bon et il y en a du moins bon. Et du coup, si on est des professionnels formés et assez pédagogues, ou même pas forcément pédagogues, mais juste la passion d'informer les personnes... allez-y, allez sur les réseaux ou trouvez un moyen, un média, un canal pour venir diffuser cette information-là, parce que les personnes qui sont, comme tu disais, qui ont besoin de réponses à leurs questions, qui ont des doutes, qui ont envie de trouver de l'information, vont de toute façon chercher quelque part et vont de toute façon trouver quelque chose. Donc, autant que ce soit quelque chose de qualitatif.
C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que, après, une fois qu'on a cette information-là, c'est aussi intéressant de savoir que finalement, elle va être vraiment mise à profit par les personnes qui vont aller la chercher sur Instagram. Parce qu'on sait, c'est que lorsqu'on est acteur d'une recherche, quand on cherche une réponse à un problème, quand on va le chercher soi-même, il va entraîner des comportements de changement positif dans nos vies. Donc, c'est très intéressant de savoir ça aussi. Donc, c'est aussi un argument supplémentaire pour encourager les personnes à chercher des solutions, y compris sur Instagram, et aussi les personnes qui peuvent apporter de l'information, de l'éducation, qui peuvent aussi lutter contre les idées reçues au sujet de la sexualité ou de la ménopause. En général, c'est vrai que c'est le bon endroit parce que ces informations, elles vont être bien utilisées.
Si on se pose des questions, alors ce que tu suggères, c'est d'aller chercher, peut-être, pourquoi pas, sur Instagram, parce que plus on va être à la recherche et activement de réponses, plus finalement ça va avoir un impact positif même dans le changement ou dans son comportement ou peut-être même dans son état d'esprit vis-à-vis de ce qu'on vit, peut-être une acceptation.
C'est ça, en tout cas, en ce qui concerne par exemple la ménopause, là, lors de mon étude, je me suis rendu compte de façon significative que les femmes qui étaient venues chercher des informations sur Instagram au sujet des symptômes, comment les soulager, etc., après avoir consulté des sites, elles disaient clairement qu'elle ne vivait plus la ménopause de façon difficile, mais que ça avait vraiment amélioré leur ressenti et leur vécu de ce moment de leur vie. Et elle disait la même chose dans les difficultés sexuelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort qui a retenu, en fait, mon attention. Voilà.
Et dans celle que tu interrogeais, donc si je reprends les chiffres, 88,4% d'elles estiment en plus que les informations qu'elles trouvent sur la ménopause et la sexualité sont fiables. Donc si on a aussi cette perception, cette croyance que c'est fiable, plus ça a aussi un impact, je pense, sur la manière de recevoir, la manière de se sentir vis-à-vis de cette information.
Oui, probablement. En tout cas, c'était intéressant de pouvoir constater qu'effectivement, il y avait un indice de confiance très fort. Alors, on sait aussi qu'Instagram, de toute façon, c'est un réseau social qui suscite beaucoup d'engagement, contrairement aux autres. C'est l'un de ceux qui suscite le plus d'engagement, c'est-à-dire le plus d'action et de réaction par rapport à ce qui est proposé.
Et donc, les personnes les femmes de plus de 45 ans qui vont sur Instagram pour rechercher vis-à-vis de la ménopause, vis-à-vis de la sexualité, elles ont enfin des modèles et en plus des partages d'expériences qui sont du coup quand même dans l'ensemble positives ou qui les rassurent peut-être aussi sûrement. Quels apprentissages elles en font ? Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages que tu vois ? Parce que je pose cette question parce que peut-être que tu l'as mentionné tout à l'heure, tu disais une meilleure compréhension de leur corps. Et je ne sais pas si tu vois ça, toi, en séance, mais j'ai des fois des femmes, et là, je dis bien des femmes même qui ont 60 ans et plus, qui disent, en fait, avec Instagram, j'ai découvert ce qu'était le clitoris, j'ai découvert où était mon clitoris, et j'ai découvert comment me servait mon clitoris. Vous vous rendez compte, à 60 ans ? Et donc, elles ont un peu cet élan de « Waouh, je découvre quelque chose de nouveau dans ma vie », et en même temps, zut, mince, j'ai honte, pourquoi je ne le savais pas avant, quoi ?
Oui, ça me fait vraiment penser. Oui, je te rejoins complètement, Camille. J'ai les mêmes témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, en général, ignorent leur fonctionnement, ne connaissent pas leur anatomie et ne connaissent pas leur fonctionnement intime. Elles ne savent pas, par exemple, que... il faut du temps, par exemple, pour se connecter à l'excitation sexuelle et ensuite avoir physiologiquement une préparation intime qui permette, par exemple, une relation sexuelle confortable, de plaisir. Je pense à toutes les questions autour de la douleur, de la pénétration, par exemple. Mais là, ça ne concerne pas que les femmes ménopausées, mais... En fait, le fait de savoir que, effectivement, le clitoris existe, hein, qu'il est réservé au plaisir, qu'il doit être stimulé, enfin, que c'est quand même...
Si, ça fait plaisir. Effectivement, les sondages montrent quand même, voilà, le monde des sondages montrent quand même que pour une majorité, ça peut être très plaisant de le coupler.
Ouais. Voilà, et qu'en tout cas, le vagin, avant d'être caressé, si on a envie qu'il soit caressé, il nécessite un peu de temps pour ballonniser, hein, pour s'allonger lui aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que, hop, elles doivent être prêtes en quelques minutes. Le fait de savoir que ça prend plus de temps, bah, ça permet de se dire qu'on est normal, qu'en fait, on va peut-être évoluer dans notre sexualité et qu'on n'a pas de problème, en fait. Qu'on a simplement... Une compréhension plus juste de ce qui se passe dans notre corps et qu'on va pouvoir la partager avec un ou une partenaire pour vivre une sexualité plus épanouie parce que plus en accord avec ce dont nos corps ont besoin pour bien vivre ce moment de plaisir partagé.
Et en t'entendant, j'ai une nouvelle réflexion qui m'est venue. Alors c'est tout frais, mais je vais la partager là. Où souvent, du coup, on va entendre dans les consultations, que ce soit les hommes ou les femmes, et là, dans les couples hétéros, oui, mais du coup, la sexualité des hommes, c'est tellement plus simple. Parce que comme tu disais, les femmes s'attendent à ce que soudainement, ça y est, elles doivent être prêtes, etc. Et se dire, et les hommes même disent, mais enfin, la sexualité, c'est simple, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi on doit prendre le temps? Et la réflexion qui me venait, c'était, oui, mais il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une personne qui va être pénétrée. Et je pense qu'il y aurait besoin d'autant de préparation si c'était l'homme pénétré. Donc ça n'a rien à voir en fait avec homme ou femme, je pense que ça a à voir aussi avec la pratique.
Je te rejoins complètement parce qu'on sait que le plaisir masculin ne se concentre pas sur le pénis et peut effectivement aussi être un plaisir pendant une pénétration éventuelle et nécessite un temps d'adaptation, un temps de préparation, un temps de lâcher prise. C'est un rapport à l'intime différent et effectivement, c'est pas une histoire de différence de sexe, hein, c'est une histoire d'aller chercher quelque chose qui n'est pas à l'extérieur du corps finalement. Et qui serait plutôt vers l'intérieur du corps, quel qu'il soit finalement.
Oui, puis il suffit d'interroger justement les hommes qui se font pénétrer, le disent. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être détendu, et donc peu importe en fait finalement. Et c'est toujours remettre en perspective et casser des croyances, comme tu disais un petit peu sur les réseaux ou quoi que ce soit, on peut trouver... pour trouver des informations, mais qui des fois véhiculent des fausses croyances et des choses qui peuvent venir mettre des complexes ou dire, en fait, t'es pas normal parce que tu me mets trop de temps comparé à moi, je suis rapide directement, j'ai tout le temps envie. Tu vois, c'est des choses qu'on entend en consultation.
Oui, alors moi, ce que j'ai aussi pu observer en consultation, c'est que les informations que les femmes glanes et qu'elles ont sur Instagram, ça leur permet de les partager avec leur partenaire. Et quand ils sont masculins, en fait, on se rend compte aussi que ces hommes de plus de 45 ans ont eux aussi des dysfonctions et ne tiennent pas vraiment compte de leurs dysfonctions parce que je prends l'exemple d'un homme qui aurait des problèmes d'érection après 45 ans, ça peut arriver. Bah, cet homme-là, il va se dépêcher de ne pas perdre son érection, d'en profiter et d'avoir envie d'une relation sexuelle avec pénétration, ce qui ne va pas permettre à la femme ménopausée qui, a priori, a quand même besoin d'un petit peu plus de temps, pour être prête à recevoir cette caresse vaginale. Donc en fait, dans cette histoire-là, on est deux. Et sur Instagram, je trouve qu'on l'explique bien ça souvent. Vous êtes deux dans la relation et on l'oublie un petit peu parfois. Donc les femmes, ce qu'elles me disent, bah en fait, Instagram, ça m'a permis de me rendre compte qu'on est deux dans la relation et qu'il n'y a pas que moi et que je dois aussi ouvrir mon partenaire je dois lui communiquer ce que j'apprends, je dois plus communiquer, il doit s'intéresser aussi à ce qui se passe dans mon corps, il doit apprendre. Donc apprenons ensemble et adaptons-nous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, on est deux, il n'y a pas que moi.
Et c'est super intéressant ce que tu dis, on voit où c'est essentiel et j'adore quand des personnes viennent, et là des hommes apprenants qui disent « moi je suis plein de comptes sexo-éducatifs » parce qu'on voit, déjà du coup il y a une ouverture puisqu'il y a la curiosité d'aller chercher ces informations-là, mais on voit aussi tout le cheminement, les réflexions qu'ils ont, et c'est super intéressant, et se repositionner, et c'est totalement différent de en fait recevoir un couple et, comme tu disais, la femme qui est déjà dans cette ouverture-là, qui est en recherche, qui passe des heures et des heures sur Instagram à avoir ces informations-là, versus là, dans un couple hétérosexuel, son partenaire qui n'est pas du tout ouvert à ça et qui dit « non, il n'y a pas de souci, enfin pourquoi, moi tout va bien dans la sexualité, c'est facile, j'ai pas besoin de faire des recherches, je sais faire tout seul ».
Tout à fait. Et d'ailleurs, les femmes, elles sont plus en recherche que les hommes. Elles sont plus présentes sur les réseaux sociaux et sur Instagram, sur ces comptes qui traitent de sexualité et sur les comptes qui traitent de ménopause. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Ça, c'est sûr. Et me vient la question, et je ne sais pas si ça, que ce soit dans ta recherche ou dans ce que tu vois, ce que tu as lu, s'il y a des différences dans la sexualité pour les femmes ménopausées qui sont en couple hétérosexuel, pour les femmes ménopausées qui sont en couple lesbien, pour les femmes ménopausées qui vivent leur sexualité solo ou qui vivent avec des rencontres.
Alors en fait, c'est très intéressant comme question, je ne l'ai pas creusé dans ma recherche. En revanche, alors là, il faudrait s'y intéresser plus précisément, mais j'ai des retours de consultation. Et ce que j'observe, c'est que les difficultés pour les couples lesbiens et pour les couples hétérosexuels sont les mêmes au moment de la ménopause. Ce sont, de mon observation, les mêmes problèmes. Pour les femmes célibataires, c'est autre chose, il y a deux choses. Il y a les femmes célibataires qui avaient une bonne sexualité avant la ménopause et qui sont restées un moment sans investir la sexualité et qui vont reprendre la sexualité occasionnellement ou plus régulièrement, mais après une période sans investissement de sexualité, ça peut être difficile. Mais en général, elles vont réinvestir la sexualité et de nouveau avoir une sexualité épanouie parce qu'elles vont s'intéresser, elles se connaissent, elles se connaissaient. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme le vélo, elles vont se remettre en selle et ça va aller.
Malgré même peut-être ce corps qui change, ces bouleversements hormonaux généralement.
Avec un travail sexologique, en principe, vraiment... On arrive à des résultats vraiment positifs. Et puis, il y a les femmes qui avaient une sexualité qui n'était pas épanouie ou qu'elles n'avaient pas investi et qui, après un changement de vie, après la ménopause, vont changer de partenaire, vont se séparer, vont retrouver quelqu'un et vont découvrir la sexualité. Alors là, ça peut être un petit peu plus compliqué et en fait, on va avoir tendance à accuser la ménopause des difficultés. Or, ce ne sera pas du tout le cas. Donc là, moi, c'est ce que j'observe vraiment. Que ce soit des femmes hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. L'orientation sexuelle, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose.
C'est vrai, c'est ce qui revient aussi en cabinet, que ce soit ménopause ou pas ménopause, quand on pose souvent cette question, je me dis, en tout cas, de ce que je vois, c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes interrogations aussi. Et tu parlais justement de ce facteur de comment je vivais ma sexualité avant ménopause. Ça sera peut-être le plus gros facteur finalement sur comment je vais vivre ma sexualité post-ménopause. Et le parallèle à chaque fois, en fait, je trouve qu'il est énorme entre le sexualité postpartum et sexualité ménopausée. Les bouleversements avec plein de facteurs qui peuvent influencer de manière positive ou négative la sexualité. Mais souvent, le plus grand indicateur, c'est comment était votre sexualité avant cet événement.
C'est rigolo que tu dises ça, Camille, parce qu'en fait, à chaque fois que je parle de ménopause, je pense à la grossesse. Et tout le temps. Parce que c'est un bouleversement hormonal, comme tu le dis. C'est un bouleversement de l'image corporelle. On doit remettre en question sa sexualité de couple. On doit évoluer, s'adapter. Et c'est souvent ce que je dis aux femmes ménopausées. Je leur dis, mais en fait, vous l'avez déjà fait. Vous avez eu des enfants. Vous avez déjà été confrontée à ça. Et vous avez su surmonter ce qui vous semble des difficultés et qui, en fait, sont plutôt l'opportunité d'évoluer dans votre sexualité, de vous ouvrir à des choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Quel voyage génial, non ? C'est quand même génial.
Quel tremplin.
C'est l'opportunité pour vivre quelque chose de nouveau parce que la sexualité, elle évolue tout au long de la vie. Tout au long de la vie, ça veut dire tout au long de la vie sexuelle, y compris après la ménopause. Hein. Donc, c'est super intéressant de comparer ça. Et souvent, ça permet de débloquer cet a priori, cette idée reçue selon laquelle c'est très compliqué d'avoir de la sexualité au moment de la ménopause. On va forcément avoir des difficultés, etc. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais il y a
c'est la pluie.
De la grêle. Oui.
Ah oui, j'ai entendu, ouais, j'étais là, c'est la pluie.
Je suis désolée, ça. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose.
Non.
Et donc moi aussi, je fais beaucoup ce parallèle avec ce moment de la grossesse, bien sûr.
Oui. Et là, pour les personnes qui nous écoutent, pas besoin d'être passé par une grossesse nécessairement, mais ça peut être tout événement de vie. Je pense au cancer, je pense à des handicaps qui peuvent en fait vont nécessiter de réadapter. Mais comme tu disais, la sexualité, elle évolue tout au cours de la vie. Donc, on a besoin d'avoir cette flexibilité-là. Et la ménopause ou une grossesse, ça vient juste, peut-être brutalement, hein, j'exagère, mais venir remettre ça en question en fait.
Exactement. Donc, de toute façon, la sexualité, elle est amenée à évoluer. D'ailleurs, sans parler de changements d'image corporelle ou de difficultés de santé, etc., tout au long de la vie se charge de nous faire évoluer. On n'a pas la même sexualité quand on rentre dans la sexualité au moment de l'adolescence ou de la vie du jeune adulte. Quand on rencontre des difficultés d'ordre social, professionnel, on doit aussi réinterroger la façon dont on se connecte à la sexualité. Et donc, c'est quelque chose de vivant qui évolue. Et c'est très joli, je trouve, de s'y intéresser. Donc, la ménopause, c'est aussi un moment où on peut se poser cette question et c'est donc un moment où on va aller chercher des réponses là où elles se trouvent et donc notamment sur Instagram. C'est vraiment le réseau qui parle de sexualité sans tabou, de ménopause sans tabou et de sexualité pour les femmes plus âgées sans tabou. Donc on est au bon endroit en fait.
Vous êtes au bon endroit, on est au bon endroit. Et dans ces recherches-là, du coup, quelles sont pour toi les deux, trois grandes questions qui reviennent souvent, justement, dans cette recherche de réponses ?
Alors, les problématiques de désir, de perte de désir, vraiment, elles arrivent très fréquemment en tête de liste, suivies par les problèmes de douleur, de manque de lubrification, hein, qui sont liés au syndrome génito-urinaire de la ménopause, souvent. Et puis, le poids, le problème de la modification de la répartition des graisses sur le corps, suivi d'une petite prise de poids d'au moins 2 à 4 kilos en moyenne. Et les questions autour du traitement hormonal de la ménopause. Vraiment, c'est pour moi les sujets qui reviennent le plus souvent et qui sont le plus souvent évoqués dans les partages d'expériences et dans les questionnements.
Ok. Et là, alors, bien sûr, hein, ce n'est pas une consultation, mais vraiment dans les grandes lignes, si par exemple, voilà, je suis une femme ménopausée et soudainement, j'ai une perte de désir alors qu'avant, ma sexualité se passait plutôt bien, je viens te voir, quelles peuvent être les solutions, les propositions ?
Alors, je te demanderais Enfin, tu vois, je ferai vraiment le tour de tout ce qui se passe au niveau de ton couple, si tu es en couple ou si tu n'es pas en couple, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de femme. Je vérifierai quand même que oui, la sexualité, elle était épanouie, qu'il y a de bonnes connaissances sur l'anatomie et le fonctionnement. Et ensuite, je proposerai un travail sur comment je me connecte à mon excitation sexuelle. Qu'est-ce qui fait que, avant, je savais ouvrir cette porte, je la visualisais, cette porte, et peut-être qu'aujourd'hui, je ne la visualise plus, ou que je ne sais pas l'ouvrir, ou que quand je l'ouvre, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que je ne me reconnais plus trop, je ne connais plus cette pièce. Et donc, je vais réapprendre la géographie de mon corps, et peut-être je vais trouver de nouvelles connexions, de nouvelles portes pour rentrer dans l'excitation sexuelle. Donc, de toute façon, il y a toujours une possibilité d'ouvrir ces portes-là. Par rapport au désir, clairement, j'irai un petit peu gratter du côté du partenaire s'il y en a un, à savoir si ce partenaire, il est... parce qu'il a une grande part de responsabilité, le partenaire ou la partenaire, sur la valorisation de cette période de transition autour de la sexualité. Est-ce que ce partenaire, il fait des compliments, il a un regard aimant, bienveillant, sexy? Est-ce que lui-même, il est sexy, hein? Je ne trouve plus mon désir, mais est-ce que je le désire, ce ou cette partenaire? Est-ce qu'on fait bien attention à soi, etc.? Donc, j'irai quand même un petit peu gratter de ce point de vue-là. Où est-ce qu'on en est dans la séduction, là, dans ce couple-là? Qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, parce que seul, on peut aussi être dans la séduction. Mais voilà, je t'interrogerai sur la séduction. Tu vois, par exemple.
Ouais, super, super passionnant. Et du coup, quand tu parlais encore, me venait en tête. Parce que tu vois, là, si on parle voilà, de couple, quand on arrive en ménopause, imaginons qu'on est resté 10, 20, peut-être 30 ans, voire plus. Bon, non, en fait, 30 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais ça peut arriver. Mais 10, 20 ans ensemble, c'est aussi pas la même chose que si je viens de rencontrer un partenaire il y a quelques années ou même là, pendant que je suis en ménopause. Mon désir est peut-être totalement différent. Il peut être tout feu, tout flamme aussi.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le dire, c'est que la ménopause, c'est l'occasion de vivre une sexualité améliorée, parce que les bouleversements hormonaux, ils fonctionnent dans un sens et dans un autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une libido exacerbée, en plus facilitée par le fait qu'on a plus de temps pour soi, qu'on est souvent quand même dans un moment professionnel où on sait à peu près ce qu'on fait, si on change, en tout cas on est porté par de nouveaux projets, on a une maison qui est disponible, du temps qui est disponible, on est de nouveau en couple à deux souvent, ou en tout cas les enfants ils sont quand même bien autonomes, donc c'est un bon moment. Et puis si on est dans un nouveau couple aussi, ça booste la libido. Donc oui tout à fait, hein, la libido, le désir peut être tout à fait investi et amélioré, parce que aussi on a moins peur de tomber enceinte, on a probablement plus besoin de contraception si on est ménopausée. En revanche, c'est pas le cas si on est pré-ménopausée, mais en tout cas on est libéré de cette peur éventuellement de tomber enceinte, hein. Et puis on est aussi libéré de la charge mentale de la contraception si on n'en a plus. Donc en fait il y a plein d'avantages à être ménopausée, hein. On n'a plus de cycle, hein. Ça peut être une libération, ça peut être vécu comme tel en tout cas. Donc il y a plein de choses positives qui se passent et qui peuvent se répercuter de façon positive et intéressante pour travailler, enfin pas travailler, mais vivre un désir exacerbé, du plaisir et de nouveaux plaisirs aussi.
J'aime bien cette presque note de fin terminée sur quelque chose... Une touche de plaisir, de positif, parce que oui, la sexualité en ménopause peut être encore plus agréable, plus plaisante, avec des découvertes autres, comme tu disais, parce qu'il y a moins de craintes de plein de choses. qu'on se libère, qu'on a peut-être, oui, plus les enfants sous le toit, donc on se permet peut-être de faire des cris, on se permet de, peut-être de faire dans d'autres pièces, etc. Encore une fois, voilà, tout dépend aussi de comment on vivait la sexualité avant, comment on se sent dans son corps, comment on est dans sa relation, si on est en relation, tous ces facteurs-là, quoi.
Alors, d'autant, Camille, que il faut quand même se rendre compte que la moitié du temps de vie sexuelle des femmes va se réaliser en étant ménopausée.
Mais oui.
c'est quand même très intéressant.
Oui, sauf s'il y a cette image toujours à 60 ans, on n'a plus de vie sexuelle. Mais effectivement, imaginons qu'on a toujours une vie intime et qu'on souhaite avoir une vie intime jusqu'à la fin de sa vie. Et vie intime, on met tout, on englobe tout.
Bien sûr.
Il n'y a pas que la pénétration.
Non, non.
Bah, en fait, tu as raison, du coup, de 45 ans à l'espérance de vie chez les femmes.
Bah, c'est 89,
ouais. Donc tu as raison.
Il nous reste à peu près 30 ans, hein, tranquillement, quand on est ménopausée. Donc 30 ans sans investir la sexualité. Alors, si on souhaite l'investir, c'est tout à fait possible. Ça fait quand même voilà, la moitié de la vie sexuelle, puisque... allez, on entre en vie sexuelle en moyenne à 17 ans, 16-17 ans, bah voilà. Donc on va vivre toute cette moitié-là de vie sexuelle en étant ménopausée, donc heureusement qu'on peut la vivre, hein, heureusement.
C'est très, ouais, c'est très positif. Et donc tu parlais que toi tu t'étais intéressée parce que bah, voilà, tu es dans cette catégorie plus de 45 ans, mais moi qui suis dans la catégorie moins de 45 ans, bah, c'est très positif aussi de voir des femmes comme toi qui... bah, utilisent déjà les réseaux sociaux, mais aussi en font du bien, montrent, véhiculent leur corps tel qu'il est et de manière très positive. On valorise les corps de manière, bah, tous les corps, quoi, de manière inclusive, et de voir que de toute façon, la sexualité n'est pas foutue quand on est ménopausée.
Mais non, en plus, quand on a plus de 45 ans, on se dit bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rester jeune, quand même, me plaire? Bah, moi, j'ai envie de répondre, faites l'amour, hein, parce que c'est quand même le meilleur anti-rides et anti-âge. En plus, c'est gratuit, franchement. Ça booste l'immunité, ça améliore le sommeil. Non, mais il faut absolument qu'on s'en saisisse si on le souhaite. C'est vraiment génial comme truc, ça. Et ça aussi, on le dit sur Instagram, faites l'amour, vous serez jeune, belle, quel que soit votre âge. Parce qu'on est très jeune à 85 ans quand on fait l'amour, hein, si on a envie, seul avec soi-même, en pratiquant l'auto-érotisme. C'est ça aussi, mm-hmm, la sexualité quand on est ménopausée.
C'est bien de le rappeler.
Ou de façon partagée. Mais en tout cas, si on a envie de se faire plaisir, mais faisons-nous plaisir, enfin. Et c'est ça, c'est ce que j'aime moi sur Instagram, c'est que la sexualité proposée sur Instagram, elle a de ça de différent de l'éducation sexuelle qu'on reçoit d'habitude, c'est que on parle de plaisir, du plaisir. Et donc c'est ça que les femmes, elles viennent chercher des réponses à leurs questions, comment soulager leurs symptômes, comment investir la sexualité, mais elles vont trouver que, ben en fait, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir dans les caresses, dans les, ce qu'on appelait avant les préliminaires, etc. Dans la lenteur, dans la séduction. Donc, en fait, elles remettent du plaisir dans leur sexualité. Elles remettent du plaisir dans leur vie. Elles s'autorisent. Elles s'assument. Elles réinvestissent leur corps. Ou l'investissent pour la première fois, parce qu'en fait, c'est ça qu'elles viennent chercher et qu'elles découvrent, c'est qu'en fait, quels que soient nos corps, on a le droit d'être bien dedans, d'être confortable dedans, d'être sexy dedans, et qu'en fait, tous les corps sont érotiques. Voilà.
Et alors, si les femmes de plus de 45 ans ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, quelle est la chose qui te vient en tête ?
Dans ce cadre-là, de plus de 45 ans, c'est s'adapter, je dirais s'adapter, évoluer. S'adapter au changement et évoluer pour vivre ce qui nous reste à vivre de la plus jolie des façons et de la façon la plus plaisante qui soit pour déguster la vie, en fait, la vie sexuelle, la vie.
Merci Virginie pour ton enthousiasme et ta passion, on le sent, donc merci pour tout ce que tu as partagé, je suis sûre que ça fait énormément de bien aux auditrices et même pourquoi pas aux auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, merci Camille de m'avoir permis de parler de ce sujet passionnant, effectivement, qui m'intéresse beaucoup. Alors, on peut me retrouver en Bretagne, où j'exerce dans mes cabinets de Plestin-les-Grèves dans les Côtes-d'Armor ou de Morlaix dans le Finistère. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop, c'est entre Brest et Saint-Brieuc, tout ça. Et puis, on peut me retrouver absolument partout, puisque je travaille en visio depuis toujours, avec les Français qui sont expatriés et les Français qui ne veulent pas se déplacer, etc. Et sur mon compte Instagram aussi, bien sûr.
Super, bah, je mettrai tout ça. Et n'hésitez pas à aller faire un coucou à Virginie ou à lui dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je suis sûre que tu seras ravie d'entendre les retours des personnes. Encore un grand merci Virginie et à bientôt.
Merci à toi Camille, merci infiniment.
Voilà, c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le-moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.